Les hommes et les femmes, mode d'emploi, Roselyne Fayard.
Le terme communiquer est de plus en plus à la mode car l'on ne se comprend plus nous-mêmes, on ne comprend plus les autres et on cherche donc par tous les moyens de remédier à cette situation qui, faut le dire, a des répercussions catastrophiques sur nos relations interpersonnelles. Chaque jour, nous utilisons des mots pour décrire nos états d'âme, notre compréhension de la vie, notre interprétation de nos interactions avec les autres et nous utilisons des mots qui nous influencent et qui influencent également tous les autres autour de nous. Il s'avère donc très utile de choisir soigneusement les mots pour exprimer notre pensée. C'est un peu à cela que revient le message d'Isabelle David. Elle enseigne la communication depuis plus de 20 ans. Elle vit au Québec, elle anime des stages et des conférences un petit peu partout en Europe également. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages et le dernier a pour titre « Les mots et les phrases qui transforment ». C'est diffusé par Transat. Bonjour Rachel. Bonjour Isabelle David.
Bonjour.
Je suis ravie de vous rencontrer. Vous venez régulièrement en Europe depuis des années.
Absolument.
Qu'est-ce que ça vous apporte de parler de communication aux Suisses, aux Français ?
Mais je me rends compte que finalement l'être humain est pas mal semblable partout sur la planète. Et que lorsqu'on parle de communication interpersonnelle, même si on a différentes cultures, l'essentiel de nos communications familiales, par exemple, ou hommes-femmes, reste à l'essentiel, c'est-à-dire à des mots clés, à des méthodes, des façons de dire les choses qui peuvent nous rejoindre plus les uns et les autres.
Mais est-ce que le public suisse, par exemple, ou français est différent du public québécois? Parce que je rappelle que vous venez du Québec.
Mais chaque public est différent, bien entendu, parce que les problématiques ou les difficultés qu'un couple vit peut varier d'un pays à l'autre selon la culture. Mais l'être humain étant identique, on se comprend tous au niveau de la communication et on a tous les mêmes difficultés de communication, peu importe le pays.
Alors, vous enseignez l'art de communiquer sous différentes formes.
Exactement.
On aura l'occasion d'explorer les divers processus, outils, méthodes que vous utilisez. Mmh. Il me semble que là où il y a une différence quand même, c'est que aux États-Unis ou en Amérique du Nord, on va dire, et au Québec, les gens vont peut-être plus facilement aller chercher des outils de communication. Nous, on part encore de cette idée, enfin j'imagine qu'elle est là derrière, que nous sommes censés communiquer correctement et qu'on n'a pas besoin de la preuve. Vous êtes d'accord?
Oui,
il y a un côté pragmatique, bon c'est pas nouveau de le dire, mais un côté je vais m'outiller en Amérique du Nord, qu'on n'a pas encore tout à fait, c'est pas un réflexe qu'on a.
Non, c'est vrai qu'on a plus l'ouverture à ça, aller soit chez un thérapeute familial, par exemple, ou conjugal au besoin, ou aller consulter un coach. Si on a besoin aussi pour résoudre des difficultés ou tout simplement pour installer des solutions dans notre vie. Tout à fait. Il y a une plus grande ouverture, une facilité peut-être à parler de ce genre de choses-là.
Alors, il faudrait d'abord qu'on s'explique sur... vous avez le dernier de vos ouvrages s'appelle « Des mots et des phrases qui transforment ». Donc, au fond, comprendre notre langage, comment comprendre notre façon de communiquer pour comprendre aussi notre relation aux autres. On veut tous communiquer, on parle de ça, c'est le grand mot à la mode, c'est presque un gros mot parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on met derrière. Et pourtant, ce n'est pas suffisant. C'est notre désir de bien communiquer semblerait insuffisant pour que nous y arrivions. Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, c'est que les gens pensent que lorsqu'on communique, que l'on se comprend. Mais la communication ne veut pas nécessairement dire que l'on s'entend ou qu'on se comprend ou qu'on se parle correctement ou dans un modèle ou une façon qui est appropriée pour l'autre pour recevoir ce qu'on dit. Donc, dans toute communication, il y a notre façon à nous de communiquer, de s'exprimer, mais il y a principalement comment l'autre personne va le recevoir, dans sa façon d'être, dans ses croyances, dans ses attitudes. Et je dirais que tout l'art de la communication est de penser que lorsqu'on communique, c'est aussi avec quelqu'un d'autre.
Donc, de tenir compte de...
De tenir compte de la différence.
De qui il est.
Voilà, de qui il est, dans son mode, dans ses besoins, dans ses différences.
Mais ça demande un développement personnel considérable.
Oui, ça demande du travail sur soi continuel.
Or, on le fait assez peu, franchement.
Oui.
C'est même un miracle qu'on arrive à se comprendre.
C'est vrai, c'est vrai que ça fait partie du miracle de la vie.
On est assez peu conscient de notre propre vision et très, très peu conscient du besoin et de la vision de l'autre.
Le seul moment où on les concerne de la vision de l'autre, c'est quand on se rend compte que l'autre n'a rien compris de ce qu'on voulait dire.
C'est ça, quand on arrive au clash.
Là, on comprend très bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Alors, est-ce qu'on peut aussi imaginer, puisque vous détaillez tout ça dans vos ouvrages, Isabelle David, parce que vous en avez écrit plusieurs, il y a aussi à prendre en compte la communication dans son ensemble. C'est-à-dire que vous nous rappelez que 7% de la communication passe par les mots. Ça veut dire plus de 80% par le langage du corps. C'est-à-dire
exact.
L'expression corporelle.
Oui, donc, tout ce qu'on appelle le non-verbal, finalement.
Oui, c'est ça.
Qui inclut le langage corporel et qui inclut le volume, le tempo, le rythme, la tonalité.
Le son de la voix.
Le son de la voix, oui. Et puis, je peux vous donner un exemple très simple. Si je dis à mon chéri que je l'aime avec une intensité, avec de la passion, avec de la fougue, il va très bien comprendre que je l'aime vraiment. Mais
j'ai qu'à vous regarder. Hein, parce que vous venez de me faire une démonstration au micro.
D'une femme amoureuse.
Oui, et rayonnante quand elle fait sa déclaration.
Mais si je dis à mon chéri, oui, bon, écoute, je t'aime. Mais ce sont les mêmes mots, mais ils ne veulent pas dire la même chose.
Et quelle est la différence, à part le reflet de votre visage?
Oui, bien que dans un, c'est vraiment une intégration, une cohérence complète entre mes émotions, mes sentiments, ce qui viennent de ce qu'on appelle une structure profonde de l'être.
Donc et ce qu'on est, ce qu'on ressent vraiment.
Ce qu'on ressent vraiment.
C'est ça
vraiment.
Qu'on appelle la structure profonde.
Voilà,
les émotions profondes.
Les émotions, les sentiments. Et ensuite, ben, on ajoute un mot, et le mot qui correspond, qui explique ce que je vis. Et puis, des fois, on utilise des mots, mais les mots ne correspondent pas vraiment à notre réalité. J'aurais pu dire, exemple, oui, bon, ben, écoute, c'est bien, on est ensemble, mais pas plus. Et ce « je t'aime » sans plus, bien, veut dire autre chose. Et c'est là, je dirais, la difficulté de beaucoup de communication interpersonnelle et humaine. C'est comment on fait pour décoder si la personne, ce qu'elle nous dit, c'est vraiment ce qu'elle ressent à l'intérieur ou ce qu'elle pense vraiment, ou si c'est juste un mot qui est dit comme ça et qui n'a pas de représentation avec quelque chose de plus profond, de plus sincère.
Dans nos relations intimes, hein, je veux dire familiales ou relationnelles importantes, ce à quoi nous attachons l'importance, parfois nous disons, nous avons des théories sur « tu es quelqu'un d'important pour moi
oui. »,
tu es quelqu'un de précieux pour moi, et en fait, la personne en face ne semble pas entendre ce message. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut écouter? Est-ce qu'il faut écouter « tu es importante pour moi » ou bien cette sensation profonde qui est que « oui, mais il n'est jamais là ». Enfin, ça peut être vrai dans l'autre
oui,
sens.
Oui,
hein.
Bien sûr.
« Il n'est jamais là, oui, mais il me critique en public. Oui, mais il pense jamais à mon anniversaire. » Enfin, c'est toutes ces sortes de choses auxquelles les femmes attachent de l'importance.
Ben, c'est sûr qu'on a toujours un souhait et un désir que notre amoureux ou que le père de nos enfants nous dise des choses ou soit là pour nous. Mais en réalité, ils n'ont pas nécessairement les mêmes besoins. Justement, il y a quelques jours, je parlais avec une personne de Suisse qui me racontait que dans sa vie de couple, son conjoint a envie de faire des activités seul et elle a de la difficulté à accepter ça parce que pour elle, dans sa définition, c'est on doit le faire ensemble. Et il n'arrêtait pas de lui dire « mais oui, mais tu m'embêtes parce que tu m'emmènes avec toi à faire de la randonnée et puis moi, ça ne m'intéresse pas du tout, j'aimerais faire autre chose. » Donc, on a des attentes aussi par rapport à qui nous on est. Et quand l'autre ne répond pas à ses attentes, soit avec des mots ou avec des gestes, bien, ça nous rend des fois frustrés ou en colère et ça crée de l'incompréhension au niveau du couple. Alors qu'en fait, si on se respecte les uns et les autres, bien, là, la relation peut être encore plus profonde, plus sincère, plus intense, je dirais.
Mais encore faut-il arriver à décoder
Absolument.
Ce que l'on veut véritablement, parce que
là,
puisqu'on parle de la communication, donc parfois nos mots ne sont pas le reflet de ce que nous ressentons profondément.
C'est la majorité du temps, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on ressent, ou on ne prend pas le temps d'aller chercher à l'intérieur de nous ce qu'on ressent. Et on a appris, et j'imagine que c'est vrai ici aussi, comme chez nous, on a appris à être poli.
Oui. À cacher nos vrais sentiments, nos vrais besoins.
Oui, exactement. Et puis parce que ça ne se fait pas, ou parce que, exemple, un homme ne doit pas pleurer, ou parce que je ne dois pas dire à mon enfant ce que je ressens vraiment, parce que je veux que son estime de lui soit excellente. Donc, je ne dirais pas, je sais pas qu'il ne réussit pas à l'école et que ça m'énerve ou ça m'agace, ou je suis déçue. On fait attention à la façon qu'on dit les choses très souvent parce qu'on ne sait pas comment le dire autrement.
Donc ça commence très tôt dans
très
nos
jeune.
Éducations, dans les relations parents-enfants.
Oui, à tel point que j'ai décidé il y a plusieurs années de faire de la prévention au niveau de la communication et de me dire exactement dans cette direction-là, comment est-ce qu'on peut faire pour éduquer les enfants et les jeunes et évidemment les parents et les éducateurs, en fait tous les gens du domaine de l'éducation, pour qu'ils apprennent à dire les choses aux enfants, pour que les enfants modélisent cette façon de dire, pour que plus tard dans notre vie, on ait des adultes qui aient une capacité de meilleure communication entre eux.
Qu'est-ce que ça veut dire les aider à exprimer, qui est important pour eux? Là, je parle des enfants.
Oui, c'est que des fois, les enfants n'arrivent pas à mettre des mots justes sur quelque chose. Oui. Description d'émotion, ça peut être ça. Ou des fois, c'est une question de formulation, quelque chose de très, très simple, comme des fois, on va dire à un enfant de ne pas jouer dans la rue. Et puis, comme vous savez, la première chose qu'ils font, c'est ils vont jouer dans la rue. Donc, on apprend aux enfants à reformuler les choses d'une façon différente, comme par exemple, on lui dirait « reste sur la pelouse ». Ou reste près
plutôt
de la maison.
Plutôt que de dire « ne va pas dans la rue ».
Voilà, exactement. Et les enfants ne sont pas habitués, eux non plus, à parler en termes de ce qu'ils veulent. Mais très souvent, dans notre société, on est habitué de parler de ce qu'on ne veut pas. Ce qui est très bien aussi, c'est bien de parler des deux. Mais la façon que ça se produit, c'est en termes d'encodage au niveau de nos représentations internes. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête, en fait, pendant qu'on parle? Quelles sont les images qui sont représentées? Comme par exemple, tout à l'heure, quand je disais que j'aime mon mari, vous avez pu observer chez moi des changements, un sourire peut-être.
Une congruence.
Une congruence, voilà. Bien, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais une représentation de ça. Je voyais mon mari dans ma tête et puis je m'imaginais en train de lui dire.
Oui. Vous imaginez la joie que vous vivez à ses côtés, c'est
voilà,
ça?
Voilà, exactement.
Donc là, vous le ressentez
je
et
le
votre
ressens.
Corps l'exprime, c'est ce que j'ai perçu.
C'est tout à fait ça. Et il arrive que des fois, on dit certains mots et que les représentations que l'on a à l'intérieur de nous ne sont pas agréables ou ne correspondent pas aux mots qu'on utilise. Et c'est là que ça donne l'impression qu'on est incohérent ou les gens vont ressentir que ce qu'on dit, ce n'est pas tout à fait ça, mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Mais ils ont l'impression que le mot n'est pas juste ou que ce qu'on dit n'est pas entièrement juste. Et ça, ça s'apprend et ça s'enseigne aux enfants dès qu'ils sont très jeunes. En fait, on va commencer par nous.
Oui.
On veut apprendre ça pour nous parce que c'est facile à dire, hein. Communiquer, c'est facile. Mais en réalité, c'est très complexe, la communication de l'être humain. Et il y a beaucoup de choses dans la communication qui fait en sorte que même si on apprend comment bien communiquer, des fois on a des barrières ou des blocages à cause de notre éducation. On parlait tantôt de notre bagage, aussi de nos expériences
des
de vie.
Des expériences, oui.
Oui, de nos expériences de vie, oui. Des douleurs, des souffrances qu'on a vécues qui nous empêchent certaines fois de dire des choses. Et souvent, on ne sait pas comment. Et combien de fois j'ai entendu ça, les gens disent « oui, mais de toute façon, j'arrête de parler ». J'arrête de parler parce que quand je dis quelque chose, c'est toujours mal reçu. C'est jamais bien entendu. Donc, j'arrête de parler. Et là, évidemment, ça génère des conflits par la suite.
Ouais. Ça expliquait parfois que certains couples ou certaines familles se murent dans un silence où on ne parle plus que de choses. Passe-moi le pain.
Oui.
Est-ce qu'il y a suffisamment d'eau pour la semaine, quoi?
Oui. Et j'ai même entendu des gens, des fois, me dire « ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé ». Ça va aussi loin que ça. Ça va aussi loin que ça. Parce qu'on s'est mal compris, ce qui est fréquent.
Oui.
Et puis, j'irais au-delà de ça, c'est qu'on porte une intention très souvent négative sur l'autre et sur ce qu'il est en train de nous dire. C'est-à-dire qu'on juge. On juge et on interprète sans savoir vraiment
ce
le
que
fondement,
l'autre voulait,
dire. Exactement.
On va évidemment poursuivre cette analyse de la communication, c'est absolument passionnant. Je rappelle que vous avez publié plusieurs ouvrages. Je vais peut-être donner le dernier, celui qui fait référence à cette conversation que nous avons. C'est « Des mots et des phrases qui transforment ». C'est un livre qui est diffusé par Transat en Suisse.
Si noir, ce serait trop facile de croire à cette histoire. Tu n'es pas si blanc, tu n'es pas si noir. Mon cœur a la même couleur dans ton regard. Thank you.
the sun goes down, music takes me to town. Heart is just where I go, feel it from your head to toe. Love is really all we know. Body to Bamako, 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 body. Say body to Bamako.
We just keep chucking, guitar keeps clucking, the melody stuck in your head like locking, the dread keeps clucking, the system I'm mucking them down like nothing, and so we unite, Barry to Bamako, universal fight, if you're causing strife in the name of right, you are neither black, you are neither white, hitting on the dusty for philosophers, stay right.
Barry Bamako, Barry Bamako, apprendre le tissage, c'est le bonheur.
Et y'en a marre des rues de Paris, c'est sens interdit. J'ai compris trop de choses, des connaissances interdites. Le froid tire tes orteils, ça klaxonne dans l'oreille. Et les gens se suivent pas les jours en soleil. Je suis plus loin que l'espoir, même de l'autre côté. Mes pages ont plus de sens qu'un carrefour. Écoutez, écoutez.
Nous allons vous raconter une histoire, des rencontres entre des gens pour aider.
En nombre à Paris, on mène à Bamako.
Vive la solidarité entre tous les peuples.
Chacun de nous vaut un trio. Prix Nobel, Pacifix, discours, c'est du sirop. Tentez de chanter pour changer le monde.
C'est le bonheur.
Isabelle David, pour aller plus loin concernant le fait qu'à un moment, on n'ose même plus exprimer tant il y a de difficultés à se comprendre, parce que nous, au fond, nous ne questionnons pas l'autre, nous pensons savoir
on prend pour acquis
ce qu'il veut dire. Hein, c'est ça, quand l'autre dit une phrase, dit un mot, immédiatement, ça fait référence chez nous à quelque chose et tout de suite... C'est au lieu de vérifier ce qu'il veut dire, tout de suite on va aller en réaction. En fait. Nous sommes constamment en réaction.
C'est exactement ça. On est des êtres qui vivent nos expériences, bien entendu. Et une fois qu'on a vécu quelque chose, bien, il y a toujours un rappel, et un rappel inconscient. Et ce rappel se fait très rapidement. C'est comme à l'intérieur de nous, des pistes. Et lorsqu'on entend un mot, il y a une résonance avec ce mot-là. Et il y a une association avec ce mot-là de plusieurs choses. Et ce mot peut vouloir dire beaucoup de choses pour des personnes. Et même pour notre compagnon de vie ou notre compagne, une fois, ils peuvent dire un mot, ça veut dire une chose. Et une autre fois, ça peut vouloir dire autre chose. Mais nous, on a une référence de ce mot-là. Ce qui fait qu'effectivement, quand on l'entend, même si on veut l'entendre différemment, on a tendance à l'entendre comme on l'avait encodé la première fois.
Donc, on a engrangé des expériences dans notre enfance, notamment. Fait. Et ensuite, on va les resservir.
Les resservir,
au fond,
voilà, exactement.
Dans
et, ça se fait, et ça se fait inconsciemment. Et c'est pour ça que des
ça
fois.
Ça va très, très vite.
Ah, ça va, c'est très rapide. Le cerveau est très rapide. Et
c'est moins d'une seconde. C'est moins d'une seconde pour donner une interprétation.
Oui.
C'est ça. Hein.
C'est exactement ça. Et puis après, on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Des fois, les gens s'en rendent compte. Ils disent, ça n'a aucun sens. Ce mot-là, ou la façon que la personne m'a interpellée, ou. Il n'y avait aucune raison de réagir de cette façon-là.
Mais comment faire? Parce qu'on sent bien que quand on est dans un processus de communication, quand on vit en couple notamment, ou en famille, avec les gens qui nous sont très proches, on a des raccourcis relationnels. Hein.
Oui.
On se répète toujours, on a toujours les mêmes oui. scènes, on a toujours les mêmes reproches, on a toujours les mêmes confrontations, et on sait où ça va. Mm-hmm. Donc, quand on est comme ça, dans une première étape, j'imagine, c'est prise de conscience, en fait.
C'est
avoir
sûr.
Un bout de recul, mais ça, même sûr. Ça, c'est difficile.
Mais habituellement, la prise de conscience nous est emmenée par l'autre, ce qui est pire.
C'est un miroir extraordinaire.
Effectivement.
Qui fait que ce qu'il veut.
Et quand on reçoit ça, surtout quand ça vient de quelqu'un d'autre, ben, des fois, on peut se sentir humilié ou insulté ou on se sent mal, ce qui est tout à fait normal.
Oui, quand l'autre dit, mais en fait, pourquoi tu manques guirlande ?
Oui, voilà.
J'ai rien dit, moi, j'ai
oui.
rien fait.
Je te comprends pas pourquoi
comprends
tu
pas.
Réagis comme ça.
Ouais, ça.
J'ai rien fait, je t'ai juste dit ça et puis toi, tu sautes sur une conclusion et puis tu imagines toutes sortes de choses.
Oui. Donc là, quand on oui. est dans une scène comme ça, qu'on connaît bien, on se reconnaîtra
oui.
tous à des degrés divers,
oui.
qu'est-ce qu'on fait, Isabelle David ?
La première chose, c'est vraiment, bon, la prise de conscience est là. On n'a pas le choix parce que l'autre nous confronte à ça.
Oui.
Et la deuxième étape, c'est de dire, ben, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour me faire réagir comme ça à ce moment-là, si mon intention est de réagir différemment. Donc, si, par exemple, je réalise que ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait ne me convient pas. Donc, je me suis énervée, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas être comme ça, ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas. Bien, on peut faire le choix d'agir ou de réagir différemment. Mais pour ça, il faut se poser quelques questions. Et dans les questions, voilà.
Mais déjà, il me semble que dans le positionnement, là, vous sous-entendez que l'on est d'accord de se sentir responsable.
Oui, c'est
parce que souvent, en général, c'est l'autre qui n'a rien compris.
Oui.
Et qui ne fait rien qu'à nous embêter tout exprès.
Oui, mais des fois, c'est vrai aussi.
Des fois, c'est vrai aussi, soyons clairs.
Oui.
Parce que lui aussi, il a sa représentation.
Bien sûr.
Et ses expériences négatives.
C'est ça.
Donc, la première étape, quand même, c'est de se dire...
quelle est ma part à moi ?
Quelle est ma part ?
Oui, quelle est ma part à moi ? Et puis aussi, comment moi, je veux me sentir ? Parce que je peux être en colère toute la journée, mais si c'est mon choix et puis que ça me plaît, il n'y a pas de problème. Mais si je vis une émotion et que ça ne me plaît pas...
Ouais.
Là, je me responsabilise. Comment est-ce que la prochaine fois, j'aimerais vivre ça? Même si c'est des fois des choses très difficiles à dire. Parce qu'il ne faut pas penser qu'en communication, c'est toujours des choses extraordinairement gentilles qu'on a à dire. Au contraire, sinon, ça serait toujours facile. Donc, dans les moments de communication qui sont plus houleuses, ou qu'on a à dire quelque chose qui est difficile pour nous, et c'est souvent le cas, comment je me sens quand je le dis? Et déjà là, d'enlever cette charge émotionnelle qui, pour nous, peut être négative ou difficile, ça permet de dire les choses plus calmement.
Mais est-ce que c'est négatif d'être en colère?
Non, pas du tout. Sauf que si je ne me sens pas bien à être en colère, bien comment est-ce que je pourrais transférer ou laisser aller ma colère d'une autre façon?
Ou si je suis tout le temps en colère?
Oui, bien ça, c'est autre chose, oui. Si je suis toujours en rage, enragée.
En rage, oui.
Là, c'est vraiment autre chose.
Ce qu'on appelle monter sur ses grands chevaux.
Oui,
C'est-à-dire quelqu'un qui prend toujours les choses de façon personnelle et se sent facilement attaqué.
D'ailleurs, j'ai rencontré une personne cette semaine qui était comme ça. C'est ce qu'elle me racontait. Elle me disait, mais moi, je veux arrêter d'être en colère comme ça. Je suis toujours en colère. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être en colère ou comment tu vis cette colère-là au quotidien? Et elle m'a dit, écoute, c'est simple, tout le monde a tort sauf moi.
C'est ce qu'elle cherche à prouver?
Oui, pour elle, c'était une réalisation. En fait, elle n'aimait pas être comme ça. Et elle a dit, les gens me ramènent ça continuellement. Quand je suis en colère, je dis des mots qui dépassent ma pensée et que je regrette quelquefois, pas tout le temps, mais que je regrette quelquefois. Et j'aime pas être enragée comme ça tout le temps. Mais je réalise, c'est ce qu'elle réalisait, je réalise que ma réalité à moi, souvent je vais l'imposer aux autres.
Mmh.
Ou que leur réalité à eux, j'en tiens pas compte du tout.
Mmh.
Et c'est là qu'elle était rendue dans son intériorisation, je dirais, sa démarche personnelle, de comprendre jusqu'où elle veut aller avec ça. Et est-ce qu'elle veut comprendre un peu plus les autres ou non, ou être sur ses positions, et là, ça devient son choix à elle.
Mmh.
Et dans son cas, elle avait envie d'intégrer un petit peu plus le modèle des autres. Pas pour dire qu'ils ont raison, mais ne serait-ce que pour les entendre. Mmh. Ne serait-ce que pour ça.
Mais nous ne sommes pas toujours, ou pas souvent, conscients de la vision que nous avons de nous-mêmes, des autres et du monde. Mmh. Je vous donne un exemple. Je préparais cette interview là, ce matin et j'étais en contact avec une personne qui vit dans le monde des affaires. Et en ce moment, le monde des affaires est très, très brinque-ballé par toute la crise économique mondiale. Et cette personne disait, mais de toute façon, ils sont tous fous. Elle se faisait du souci, évidemment, pour ses affaires, cette personne fait un travail de gestion de fortune. Il y a de quoi se faire du souci,
absolument,
franchement. Et elle disait, mais ils sont tous fous. Le monde est fou. De toute façon, ils sont tellement idiots qu'on ne va pas s'en sortir. Sans jugement, juste en écoutant. Qu'est-ce qui est vrai pour cette personne pour qu'elle dise une chose pareille?
C'est une association avec sa réalité et son monde. C'est-à-dire que moi, j'aime dire qu'elle a acheté une croyance qui est qu'on ne va pas s'en sortir. Mais encore, il faudrait définir ça veut dire quoi pour elle ne pas s'en sortir. Et là, on ne le sait pas. Ça peut vouloir dire que, je ne sais pas, qu'elle perd son entreprise. Ça peut vouloir dire que ses clients ne seront pas satisfaits. Ça peut vouloir dire que le monde va être en difficulté. C'est que déjà, on n'a pas assez d'informations pour être capable de communiquer avec elle. Parce que je pourrais interpréter toutes sortes de choses.
Bien sûr. Mais ce genre de phrase, ça m'a frappé là, nous nous répétons des phrases comme ça.
Continuellement. Hein,
comme ils sont tous idiots, ils ne comprennent rien.
Oui, surtout, on dit ça surtout à nos enfants.
Les femmes sont hystériques, les hommes sont violents, ou les hommes sont fuyants. Voilà, c'est le genre
on
de petite
phrase. On a tendance
phrase.
À faire des généralisations
Or,
de
vous
nos
dites,
expériences.
Vous dites, dans le travail d'accompagnement que vous faites, et dans le livre aussi des mots et des phrases qui transforment, qu'au fond, ces mots ne sont pas anodins, ils vont dessiner, ils vont nous influencer.
Laissez-moi vous donner un exemple.
Oui.
J'ai travaillé sur des projets pilotes au Canada, dans des prisons, pour aider les détenus à mieux communiquer, parce qu'ils ont énormément de difficultés de communication interpersonnelle, et souvent des problèmes aussi d'éducation dans l'utilisation du langage. Et comme je suis très curieuse, et j'ai travaillé avec des meurtriers, etc., souvent je leur posais la question, comment était leur enfance? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Maintenant, je ne prends pas pour acquis que parce qu'on a vécu une enfance difficile qu'on devient meurtrier. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas mon propos. Mais ça m'intriguait de savoir quels mots eux avaient entendus. Et dans 95% du temps, ils avaient entendu leurs parents lui dire « t'es un bon à rien, t'arriveras jamais à rien ». Et même quelques-uns se faire dire « tu vas finir en prison, de toute façon, on le sait ».
Et là, véritable programmation, donc.
Totalement programmée. Et là, je disais à ces hommes qui étaient en prison, je lui ai dit, mais tu n'avais pas envie de faire autrement? Et ils m'ont dit, mais c'est sûr que je préférais ne pas être en prison, c'est sûr. Mais un détenu m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, tu sais, quand on est enfant, tout ce qu'on veut, c'est faire plaisir à nos parents. Et j'ai cru ce que mon père m'a dit, parce que c'est comme ça qu'il me définissait. C'est très touchant.
Oui, oui.
C'est très touchant.
C'est même dramatique.
Oui, c'est absolument dramatique, oui. Alors qu'on peut changer.
Dans cette situation-là, en tout
voilà.
cas.
Alors qu'on peut changer. En fait, il y a plusieurs choses. Apprendre à dire les choses différemment, mais en disant la vérité. Donc, si je crois que mon garçon ou si je vois que mon garçon a de la difficulté, je n'irai pas lui dire que la vie est belle. C'est totalement mentir, ce n'est pas réaliste.
S'il ne fait rien à l'école, il est assez logique que je m'inquiète en tant que parent.
C'est tout à fait normal.
Ou éducateur.
C'est tout à fait normal. Mais il y a une façon de le dire qui va être aidante, du style « qu'est-ce que tu trouves difficile à l'école ?» au lieu de lui dire « pourquoi tu ne fais rien ?»
Pas de jugement sur sa personne.
Exactement. Exactement. Et plutôt aller voir avec lui quelles seraient les solutions pour l'aider à résoudre ses difficultés ou ce conflit et comprendre comment il se fait qu'il a de la difficulté, par exemple. Au lieu d'aller dans le jugement qui est très facile. Alors, je sais bien, ou j'entends ce soir, je sais bien, t'es comme ton père. Ou...
Pourquoi est-ce que nous sommes autant dans le jugement, Isabelle David? Parce qu'on l'est tout le temps.
On l'est tous, oui. On l'est tous.
Au travail, dans la famille, dans les relations.
Oui.
On se disqualifie.
J'aimerais croire différentes choses par rapport à ça, mais je ne suis pas sûre vraiment pourquoi l'être humain est autant dans le jugement. Mais une des choses que je comprends par rapport à ça, c'est que c'est beaucoup plus facile et rapide de juger et d'interpréter que de prendre le temps de poser des questions et de comprendre les choses. Et ça demande beaucoup d'investissement de soi, le travail sur soi, le développement personnel. Et ce n'est pas toujours facile.
Quelle définition vous donnez-vous du développement personnel? Parce qu'on entend tellement de choses autour de ça.
Oui, mais pour moi, le développement personnel, c'est quoi faire et comment faire pour être une meilleure personne. Et pour être mieux avec moi. Et par conséquent, mieux vivre avec les autres aussi, en relation avec les autres. Développement personnel, pour moi, c'est comment atteindre une cohérence et une intégrité et du respect vis-à-vis de soi en premier, et puis par conséquent avoir plus de facilité de communication et d'échange avec les autres.
Est-ce qu'il y a une dimension de cet ordre-là enseignée à l'école, notamment
oui,
au Québec?
Oui, absolument, oui, tout à fait. C'est qu'on ne peut pas bien communiquer si on n'est pas en contact avec notre communication intérieure. Mm-hmm. C'est-à-dire que la première personne avec qui je communique, c'est moi-même. Mm-hmm. Et si je me mens, sans nécessairement vouloir me mentir, mais des fois on dit des choses et on ne réalise pas que ce n'est pas vrai. Sans faire exprès, ou des fois on ment pour faire exprès aussi, ça c'est autre chose. Mais la première étape, c'est de se reconnaître pour savoir qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui est bon pour nous, sans se sentir toujours coupable ou honteux d'une situation. Mm-hmm. Donc, de laisser aller ce qui ne nous convient pas pour être encore plus en lien avec ce qui est bon pour nous. Mais quand je dis ça, en prenant en conséquence les autres, parce que je peux dire que tu es quelqu'un, c'est bon pour moi, mais c'est pas ça. Mm-hmm. C'est on vit avec le monde, on vit avec les autres.
Je rappelle, cet après-midi, je reçois Isabelle David. Vous avez publié « Des mots et des phrases qui transforment ». C'est un livre diffusé par Transat en Suisse.
To lift my heart, 'cause the world keeps dancing with the paper man. I love you, never talk in dreams. And now it's here, your happiness is real. Oh, make some big jumps, you afraid to break some bones. Come on, make some big jumps, life is your saloon. You hold your head.
Isabelle David, au fond, vous proposez une responsabilisation de notre comportement et de notre lien avec l'autre, se responsabiliser au niveau de la communication, ce que j'obtiens dans ma communication avec l'autre. Mais ça suppose aussi que l'on est capable de croire et que l'on croit au changement. Bah, rien que ça, mm-hmm. c'est une vision du monde.
Tout à fait.
Beaucoup de gens disent « nous ». Disons, où nous pensons, nous croyons.
Qu'on peut pas changer.
Voilà, je suis comme ça. D'ailleurs, mon père était comme ça, ma mère était comme ça. Mm-hmm. Dans la famille, on parle comme ça. Mm-hmm. Ah oui, l'autre jour, j'entendais quelqu'un qui disait « Mais dans ma famille, on se traite comme ça, on se parle comme ça. » Quelqu'un qui parlait de l'agressivité verbale. Mm-hmm. Et voilà, c'est comme ça. Et puis, il faut accepter ça. Bon, on est un peu tous en train d'affirmer ce genre de choses.
Oui, on entend ça régulièrement.
Et est-ce qu'on se change?
Et en fait, quand quelqu'un me dit ça, une des premières questions que je leur pose, c'est « Est-ce que ça te plaît ?» Est-ce que ça te plaît? Et si ça te plaît, ben continue.
Avec les conséquences.
Avec les conséquences.
Qui parfois en découlent.
Bien sûr. Mais il y a des choses qui sont transférées d'une génération à l'autre et qui sont constructives. Cependant, si, je ne sais pas, moi dans la famille, plus personne ne se parle, et que moi dans mes valeurs importantes, c'est la famille, et que je souhaite avoir des soirées familiales et que les gens se reparlent, bien, je ne peux pas avoir d'impact sur les autres sans me changer moi-même. C'est impossible, on commence par soi. Mm-hmm. Donc, oui, je peux me changer, oui. D'ailleurs, la preuve de ça, c'est qu'on vieillit tous, donc on change. On change mm-hmm. extérieurement.
Parfois, on change dans plus de la même chose.
Oui, ça arrive.
Parce qu'on retrouve des gens qui étaient très coléreux ou des gens qui étaient très généreux. Et puis, on les retrouve, on ne les a pas vus depuis 30 ans et on s'aperçoit qu'ils ont été encore plus.
Et c'est vrai.
Soit coléreux, soit généreux.
Oui, c'est vrai. C'est intéressant la vie, hein? La façon, les événements qu'on oui. a autour de nous qui nous font aller dans une direction ou dans une autre. Et puis, oui, je pars du principe qu'en étant responsable, ça nous permet de faire des choix, ou du moins, ça donne l'impression d'avoir un peu de pouvoir dans notre vie. Mm-hmm. Donc, je pourrais ne pas me responsabiliser et vivre en victime. Mais la plupart du temps, vivre en victime, c'est d'accepter, sans le vouloir, malheureusement, tout ce qui est négatif qui est autour de ça ou tout ce qui nous empêche d'être bien avec nous.
Alors justement, comment est-ce que l'on change? Parce qu'il y a une notion dans tout ce que vous partagez, c'est la notion d'influence. Mm-hmm. Nous avons une influence sur les autres, on le sait quand même.
Oui.
Puisqu'on dit des choses, on se comporte de certaines façons et ça produit en face une réaction. Oui. Mais ce dont nous sommes moins conscients, c'est que nous vivons un peu sous une influence de notre propre langage. Oui. Alors même que nous avons une peur terrible de l'influence, hein, nous avons peur d'être manipulés, oui. nous avons peur d'être influencés, et en même temps, nous ne réalisons pas que nous sommes sous auto-hypnose.
Je vais vous donner un exemple parfait de ça. Un jour, j'étais dans une école avec des petits-enfants, 7 ans, 8 ans. Et j'étais sur place pour faire un projet de recherche pour travailler avec des enfants en difficulté d'apprentissage. Donc, on travaillait avec les parents, les éducateurs, etc. Et dans le corridor, j'entends un petit garçon pleurer. Et c'était la pause de l'heure du dîner. Donc, je vais vers lui parce que ça m'intrigue toujours. Et un enfant qui pleure. Et je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Et il me dit, ça va pas avec ma maman. Alors, je lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe avec ta maman? Et il me dit, ma maman, elle est toujours fatiguée. Bon, alors je l'accompagne un peu là-dedans. Et quand la journée termine, je retourne près de la case du petit garçon parce que je savais que sa maman viendrait le chercher. Et j'en profite pour parler un peu avec la maman en privé. Et je lui dis, je lui explique tout à l'heure quand je suis venue, ton fils pleurait et il disait que tu étais toujours fatiguée. Et elle me dit, oui, je suis toujours fatiguée, je rentre à la maison, je suis fatiguée, j'en peux plus. Et je lui dis, quand tu rentres à la maison et que tu dis à ton enfant que tu es fatiguée, lui, il interprète le mot fatiguée comme d'autres choses, parce que ce qu'il m'avait dit, il dit, ma maman, elle est fatiguée parce que je ne suis pas gentille. Ma maman, elle est fatiguée parce que j'ai été trop tannant. Ma maman, elle est fatiguée parce qu'elle ne peut plus me supporter. J'ai dit, mais quand tu es fatiguée, qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Et elle dit, mon Dieu, mais quand je suis fatiguée, c'est juste que j'ai trop travaillé. Ça a été difficile au boulot, j'ai pas assez dormi. J'ai dit, ben, qu'est-ce qui arriverait si à partir de maintenant, tu lui disais ça de cette façon-là? Donc, le mot fatiguée avait une représentation chez l'enfant, évidemment, très différente de ce qu'elle voulait dire.
Une résonance
à autre chose.
Très douloureuse. En fait.
Très douloureuse.
Ouais. Il se sentait coupable,
Totalement. Ouais. Oui, c'était de sa faute. Ouais. C'était de sa faute. Alors qu'elle, en réalité, elle voulait juste autre chose. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passerait si à partir de maintenant, au lieu de dire à ton enfant que tu es toujours fatigué, mais que tu lui dis, par exemple, que tu as besoin de te reposer, mm-hmm. Que tu as besoin d'un moment d'arrêt.
Ce qui serait déjà aller du côté de la solution.
Voilà. Exactement.
Se mettre en mouvement. Hein.
Se mettre
en mouvement. Se responsabiliser de son besoin.
Oui.
Oui, parce que c'est intéressant ça, parce que, en fait, parfois on comprend l'influence des mots négatifs sur notre vie, certes. Du coup, j'ose plus dire je vais mal et je vais dire je vais bien.
Oui.
Mais on n'est pas encore dans la vérité.
Non, pas du tout. Ouais. On se ment totalement.
C'est pas de cela dont il s'agit.
Non, absolument pas. Ça, c'est complètement de l'incohérence intérieure et finalement, on va finir par s'éloigner de soi-même, se dissocier de qui on est et avoir de la difficulté à reconnecter avec notre source intérieure. Donc, on ne parle pas de ça du tout. Mais plutôt de dire les choses, mais d'une façon différente, qui vont nous permettre, par exemple, d'avoir moins de charge émotionnelle qui n'est pas une charge qu'on souhaite. Comme dans le cas précédent, la personne, cette femme-là, avait juste une limitation de vocabulaire, c'est tout. Elle utilisait le mot « fatiguée » à toutes les sauces. Mm-hmm. alors qu'en fait, elle voulait dire des choses différentes. Donc, d'utiliser un vocabulaire peut-être plus précis pour décrire vraiment ce que l'on vit. Et puis, on peut dire qu'on a mal. Est-ce qu'on a mal? On a mal. On ne peut pas dire que je vais bien quand je vais mal. Mais au lieu de dire tout va mal, qu'est-ce qui précisément va mal? Donc, au lieu de généraliser, et puis là, la vie devient un enfer parce qu'il n'y a rien qui fonctionne, mais plutôt, ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'il y a des conflits au boulot, au travail. Donc, déjà là, c'est plus facile de comprendre. Il y a une situation difficile dans ce contexte-là. C'est pas ma famille qui va mal, c'est pas ma vie amoureuse qui va mal, c'est un conflit relationnel au travail. Donc, de ramener ça à quelque chose de simplifier, je dirais, et de plus spécifique, de plus détaillé.
C'est une façon de se mettre à l'écoute de soi.
Tout à fait.
Et d'être plus dans une sensibilité, au fond, de ce qui se passe ici, maintenant.
Exactement.
Et d'apprendre à son enfant, parce qu'en l'occurrence, la mère, elle va pouvoir apprendre à son enfant à être à l'écoute de ses propres ressentis.
C'est exactement ça.
Mais parfois, vous dites, on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que les mots que nous utilisons reflètent notre pensée, et en répétant éternellement, en tournant en rond comme ça dans nos pensées, on peut même en arriver à créer notre réalité. Je vous donne un exemple. Je pensais à un homme tout à fait séduisant, intelligent, même brillant, et qui était navré parce qu'il avait eu plusieurs échecs de couple, et qui me disait « Mais moi, je me méfie des femmes. Oh là, je me méfie des femmes. » Évidemment, on voit tout de suite le lien de cause à effet. Alors, ça paraît un peu simpliste, mais est-ce qu'on peut dire au fond que cette pensée répétée constamment « Je me méfie des femmes », alors peut-être que derrière, il faudrait savoir plus de choses.
Il faudrait aller chercher pour quelles raisons il se méfie des femmes, qu'est-ce qui s'est passé.
Il fallait se méfier de sa mère, de sa première petite copine. Mais en fait, est-ce que c'est réel de penser que cette pensée répéter
a un impact, c'est
là que je parlais d'auto-hypnose tout à l'heure. Les mots que nous répétons influencent nos comportements et notre réalité.
Tout à fait. D'ailleurs, Gérard Depardieu, que tout le monde connaît ou presque, avait passé une entrevue à la revue Psychologie il y a déjà plusieurs années. Et il avait dit la chose suivante. Il disait que lorsque je répète pour un cinéma, les mots que je répète, donc quand je répète les mots, je vis ces émotions-là. Bien, c'est exactement ça. Quand on va utiliser un mot plutôt qu'un autre, il va avoir une charge émotionnelle différente de l'un à l'autre.
Il va être déclencheur d'un ressenti.
D'un ressenti. Donc, si je répète certaines choses qui ont une grosse charge émotionnelle pour moi, toujours avec les mêmes mots, mais je vais ramener la même charge émotionnelle au même moment.
Donc, ces petites phrases que l'on se dit ou que l'on dit « j'y arriverai jamais »,« personne ne m'écoute
oui. »,
Je suis pas douée pour.
Oui,
donc, ça, ce sont des sortes de programmation, de leitmotiv.
Oui, et très souvent, moi j'appelle ça du langage toxique. Parce que ce langage-là, à long terme, fait en sorte que notre estime de nous-mêmes est à terre et qu'on n'a plus confiance, ni en soi, ni aux autres. Donc, oui, il y a des façons de dire les choses sans mentir. On revient encore à ça. Si j'ai l'impression que j'y arriverai jamais, je suis pas pour dire que je vais y arriver. Mais je pourrais dire, cependant, j'ai de la difficulté à y arriver. Où j'aurais besoin
Quelle
d'aide
différence
pour y arriver.
Fait.
Bien, j'ai de la difficulté à y arriver, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. J'y arriverai jamais.
Ah oui, ça ferme la porte.
Ça ferme la porte complètement.
On est face à un mur.
Voilà, et ce qui emmène la dépression. Si j'ai aucune possibilité de me sortir de quoi que ce soit. Donc, ça ouvre peut-être des petites portes, mais une petite porte, c'est mieux que rien du tout. Donc, j'ai de la difficulté, oui. Et j'ai de la difficulté, exemple, à m'exprimer. Cette semaine, j'ai rencontré une autre personne qui me disait que dans sa vie de couple, elle avait beaucoup de difficultés à s'exprimer verbalement, mais qu'elle avait trouvé une façon qui, pour l'instant, fonctionnait bien pour elle, c'était d'écrire des mots. Donc, il y a des moyens de communiquer différemment, en attendant, peut-être dans son cas, d'apprendre à communiquer verbalement comme elle le souhaiterait. Mais ces mots-là, même écrits, parce que c'était écrit, ont des charges émotionnelles, autant que les mots qui sont exprimés. Donc, ce n'est pas parce que j'écris quelque chose que la personne ne réagira pas. On le sait bien, on le sait tous. D'ailleurs, quand on lit des romans, on embarque dedans. Donc, les mots écrits ou dits ont des charges. Et juste des fois, transformer un peu le mot. Comme combien de fois j'entends les enfants dire ça à l'école, « Jamais j'y arriverai, je ne serai jamais capable. » Bien, ça ne leur donne pas l'espoir d'une réussite. Mais dire « Moi, j'ai confiance en toi. » Ou bien... Je crois que tu pourras y arriver.
Encore faut-il le croire.
Oui, oui, il faut que ce soit sincère.
Être sincère. Faut
que ce soit sincère, oui, parce que sinon l'enfant a très bien compris rapidement. Ils sont très sensibles à ça et ils savent que...
C'est une emplâtre sur une jambe de bois, on
voilà.
dit.
Voilà, c'est exactement ça.
Je rappelle que je reçois Isabelle David cet après-midi.
Tous les soirs sans fin, je traînais sur ma Vespa, dans mon gilet de satin, c'était la Dolce Vita. Je cherchais l'aventure jusqu'au petit matin. Nanana. Je me prenais pour Bénu en conduisant d'une main. J'étais facile. Tu es tombé dans mes bras. On se promenait en ville. C'était la Dolce Vita. Et cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé, je ne l'ai jamais retrouvé. Dans l'obscurité, je le revois encore. Elsa, Elsa, je ne t'oublie pas, Elsa.
Isabelle David, encore quelques minutes à passer en votre compagnie. Quel impact cette prise de conscience de nos mots façonnent, enfin, sont le reflet de notre pensée et façonnent aussi les expériences, en partie en tout cas, que nous allons faire, en tout cas vont influencer les expériences que nous allons faire. Quel impact sur le monde du travail, sur le monde relationnel, social, dans lequel il y a tant de conflits d'une part, de rivalités d'autre part, de solitude aussi. Vous intervenez, vous, en entreprise
absolument,
également. Hein.
Absolument, oui. Bien, dans le domaine de l'entreprise, surtout quand il y a des réunions, très souvent, on va avoir tendance à dire quelque chose et quelqu'un d'autre va commencer à bouger, à gesticoter, parce que ça va aller chercher dans quelque chose d'une incompréhension. Très souvent, on a à clarifier ce qu'on veut vraiment dire au niveau des termes, au niveau des mots. Mais dans l'entreprise, c'est des fois plus difficile qu'à la maison, même si ça a l'air étrange, mais c'est parce qu'il y a le côté financier. C'est notre salaire, c'est notre gagne-pain. Donc, on n'ose pas toujours dire les choses par peur. par peur soit de perdre son travail, ou bien de créer ou de générer un conflit, ou de perdre un client si on est à son compte. Donc, il y a là aussi un apprentissage énorme à faire, énorme, pas petit, énorme, pour que l'endroit où on vit le plus, finalement, en dehors de la maison, mais qui devient un endroit qui est sain et agréable pour nous. Mais là aussi, si un collègue, par exemple, vient me voir et puis me dit « Oh, tu sais, aujourd'hui, Jean-Paul, ça ne va pas du tout. Hein. » Je peux tout de suite interpréter beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé pour Jean-Paul? Ah oui, c'est ça, oui, il a eu un conflit avec sa femme la semaine dernière. Tout s'explique, voilà. Et là, on peut partir pendant 10 minutes sur « Oh, tu sais, sa femme, c'est pas drôle, tu l'as vu la dernière fois. » Alors qu'en fait, j'aurais pu aller le voir, lui, et lui dire « Bah, écoute, j'ai observé qu'aujourd'hui, quand tu es rentré travailler, tu ne nous as pas dit bonjour. Et habituellement, tu viens toujours nous dire bonjour, alors qu'est-ce qui se passe ?» L'objectif n'est pas de faire de la thérapie au travail, bien entendu, mais juste de clarifier les choses au lieu de partir dans des interprétations qui ensuite emmènent beaucoup de jugements et d'incompréhension.
On entend beaucoup de critiques dans le monde du travail, oui. Et dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a défiance entre les employés et les directions, mais dans les deux sens, oui. Et qu'il y a aussi beaucoup de critiques, et notamment de la part des employés vis-à-vis des directions, qui certes ne sont pas parfaites, mais on a l'impression quand même qu'on participe, même involontairement, à un climat de suspicion. Est-ce que là aussi, on peut agir sur la communication dans les relations professionnelles?
Ben, je dirais que c'est essentiel, mais ça dépend toujours de l'objectif qu'on a. En d'autres mots, quand je dis quelque chose à quelqu'un, et d'autant plus dans le domaine du travail, il y a toujours une conséquence. Et est-ce que je suis prêt à vivre avec la conséquence? Donc, beaucoup de gens vont s'empêcher de parler parce qu'ils vont répondre qu'ils ne sont pas prêts à vivre avec la conséquence. Qui, des fois, sont des questions d'intégrité, hein, éthique ou intégrité. Par contre, il y a moyen de dire les choses au moins à quelques personnes. Si on ne peut pas en parler ouvertement pour toutes sortes de raisons, l'important étant de ne pas garder à l'intérieur de nous quelque chose qui nous rend inconfortable ou mal à l'aise ou qui pourrait générer, sur le terme psychosomatique, des problématiques plus tard.
Moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose que parfois on utilise un peu trop, c'est-à-dire les autres sont la poubelle de nos émotions négatives. Il y a comment gérer ces émotions négatives qui nous submergent?
Oui. Mais les grands maîtres spirituels travaillent là-dessus depuis des millénaires, donc c'est pas facile, sinon tout le monde saurait comment faire.
Mais y a-t-il des outils?
Oui, il y a des outils.
Vous
oui,
utilisez?
Oui, oui, il y a des outils. Premièrement, c'est la reconnaissance de ce qu'on dit et ce que ça réactive chez nous.
Oui.
Et de comprendre, par exemple, que si je suis agacée par mon collègue, c'est parce que je vis la même chose que j'ai vécue dans l'entreprise où j'ai travaillé avant avec un autre collègue et qu'il me rappelle la crise existentielle que j'avais vécue à ce moment-là. Donc, on fait des liens, très souvent inconscients, de rappel. Et la première question à se poser quand on a une émotion qui est débordante et qui n'est pas habituelle, c'est « bon, ben, qu'est-ce que ça déclenche chez moi ?» Et qu'est-ce que j'ai pu vivre dans le passé qui vient d'être déclenché présentement et qui n'a pas été résolu ? Ben, sinon, je ne réagirais pas de cette façon-là. Donc, ça nous force positivement, mais pas toujours facilement, à aller vérifier à l'intérieur de nous tous ces conflits, on pourrait dire, non résolus.
Qui sont d'abord donc des conflits internes.
Des conflits internes.
Et deuxième étape, est-ce qu'on peut influencer par nos mots? Est-ce qu'on peut créer de nous, alors là on parlait de l'entreprise, mais au fond c'est quelque chose de plus général, dans le groupe dans lequel nous vivons, qu'il s'agisse du groupe familial, social, amical et professionnel, est-ce que l'on peut influencer par notre langage la communication et donc les relations?
Absolument, je vais juste penser à l'exemple d'un enfant. Quelle différence est-ce qu'il y a? Est-ce si à longueur de journée je dis à mon enfant « tu es un incapable » plutôt qu'à longueur de journée, lui dire « je sais que tu as besoin d'aide ». Ça fait toute la différence au monde. Donc, absolument, les mots qu'on utilise ont un impact sur nous, mais ont un impact énorme sur les gens qui les entendent. Donc, c'est pour ça qu'on parle du langage, entre autres le langage qui transforme, parce que j'en fais une spécialité et je trouve ça tellement intéressant. Mais c'est aussi les gens qui l'entendent, parce que ça les transforme eux aussi. Ce n'est pas juste les mots qui nous transforment, nous, mais ça transforme les autres.
Pourquoi est-ce que vous avez entrepris de vous engager dans cette démarche, Isabelle David?
Je trouve qu'on dit beaucoup de choses, mais pas toujours des choses qui sont dans le sens de ce qu'on veut vraiment dire. Et l'être humain est complexe et intéressant en même temps. Et pour moi, c'est important, on parlait de développement personnel, qu'on ait la possibilité sur Terre d'être encore plus heureux. Ça a l'air simplet, mais pour moi, le bonheur est essentiel.
C'est pour ça que vous vous êtes formée notamment à la PNL, puisque voilà. Vous enseignez la PNL depuis des années, les outils de communication. Exactement. Pour vous, les outils sont les moyens d'arriver à atteindre votre objectif?
Non, les outils, c'est seulement un outil. C'est un moyen comme un autre. Pour moi, ce qui est plus important, c'est l'intention. C'est-à-dire l'intention que j'ai quand je communique, l'intention que j'ai quand je veux travailler sur moi ou développer quelque chose. Et selon mon intention, il y a un outil qui peut être plus aidant qu'un autre. Et la PNL, pour moi, c'est un outil fantastique, mais ce n'est qu'un outil parmi d'autres outils de communication qui permettent aux gens d'être encore mieux avec eux-mêmes.
Qu'est-ce que ça a changé en vous, de cette démarche personnelle?
Ça a changé beaucoup de choses. Je me souviens, quand j'étais jeune, au début de mes relations amoureuses, j'allais chez la famille de mon conjoint. Et puis, j'étais très inconfortable parce qu'ils étaient au Québec, on a des grosses familles, donc 10 enfants, 12 enfants. Et j'étais très inconfortable à aller dans sa famille parce que tout le monde parlait en même temps. Et moi, je suis fille unique. Donc, je n'avais pas vécu ça. Et c'était tellement inconfortable que je piquais des crises dans l'auto sur la route pour aller au souper de famille parce que je ne pouvais pas supporter cette communication entre eux que je ne comprenais pas et qui m'exaspérait. Jusqu'au jour où je réalise, et c'est là la démarche personnelle, que si moi, mon attitude était différente, et si je travaillais sur cette colère et agressivité qui montait parce que les gens parlaient entre eux et j'avais de la difficulté à comprendre et je voulais être entière avec chacun et j'avais l'impression qu'ils se manquaient de respect les uns les autres, j'interprétais finalement leur intention. Alors que eux, au niveau familial, c'était leur façon de faire et ils ne se manquaient pas de respect les uns les autres. Au contraire, ils participaient et collaboraient ensemble à un échange. Donc j'ai changé mon attitude, j'ai changé ma façon de faire. Et j'ai sauvé ma vie de couple à l'époque grâce à ça. Et bien des tracas, parce que des fois, il m'arrivait de demander à mon mari de m'arrêter au bord de la route et puis de m'abandonner là parce que je voulais absolument pas aller dans la famille. Donc, tous ces outils-là, ces techniques de communication ont fait que je vis mieux ma vie. Et ça, c'est sûr. Je suis beaucoup plus tolérante que je l'étais dans le passé. Beaucoup plus en paix et beaucoup plus calme. Je vis beaucoup d'émotions, comme tout le monde, des hauts et des bas, mais les émotions sont saines. Elles sont très saines, nos émotions, quand elles nous font vivre quelque chose qui nous plaît. Et même quand elles nous font vivre des choses qui ne nous plaisent pas.
Elles nous renseignent, au fond,
elles nous renseignent sur des choses, voilà.
Ouais.
Voilà.
Merci infiniment, Isabelle David. Je rappelle, des mots et des phrases qui transforment, un livre que vous avez écrit notamment et qui parle d'éducation pour les enfants, hein, qui sont des ressources pour apprendre aux enfants à être à l'écoute et à utiliser le bon langage qui
Tout
va exprimer leur ressenti. C'est un livre diffusé chez Transat. Merci à vous.
Merci.
Les hommes et les femmes, mode d'emploi. Avec Edelweiss, le magazine mensuel féminin.
Vous écoutez Radio Suisse Romande La Première, il est 14h.